Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021. Voici Marceau le midi.
Midi 2 minutes, merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard 101. C'est le début de la finale de l'Est ce soir. Qui gagnera la Coupe Stanley?
Pascal le sait pas.
Elle a perdu son pool.
J'ai perdu mon pool.
Nous autres, on est encore là.
Comment?
Nous autres, on est encore là. Moi, j'ai dit que les Rangers gagnaient la Coupe.
Ouais. Moi, mon choix avec mon cœur n'est plus là, mais j'avais dit avec ma tête, c'était les Rangers de New York et les Rangers sont toujours dans la course. D'ailleurs, ce soir, ils vont affronter vers les entours de 20h-20h15 les Panthers de la Floride. Ouais. Puis dans l'autre match qu'on va surveiller, les Oilers qui vont affronter les Stars.
Ça, c'est demain.
Mes prédictions, c'est demain 20h30, t'as raison. Ouais. Mes prédictions pour ce soir, les Rangers devraient remporter le premier match. Pascal?
Ouais. Oui, je sais pas si t'avais vu, par exemple, quelqu'un qui... Tu veux que je fasse ma prédiction?
Oui,
merci. Oilers contre qui?
Rangers Panthers.
Oilers contre le Canada.
Canada.
Ouais, OK. Ah.
Panthers.
Fait que là, OK, parfait, j'aime ça.
Je t'ai donné texto des gens, je m'excuse.
Rangers, ce soir, premier match.
Mondial de hockey, le Canada qui va affronter demain la Slovaquie. Jurage, Slavkovski, encore de finale. Ouais. Ce sera à surveiller. Sinon, les Caps, victoire en ouverture locale pour les Capitals par la marque de 5-3 face à Sussex County. La série de trois matchs se poursuit aujourd'hui. Puis nous, on se rencontre là. C'est quoi ce vendredi?
Ça va être vendredi. Match Capital. Boulevard 102-1, des animateurs de la belle gang de Leclerc Communication qui va être sur place pour ce match-là face aux Valley Cats de Tri-City. Hot dog, une bière à la main pour terminer la semaine. Je pense pas pire.
On va se croiser sur la terrasse, c'est sûr et certain. Je sais pas si elle, on va la croiser sur la terrasse. Je sais qu'elle est assez festive. Là, les 5 à 7, elle fait le tour des 5 à 7. Valérie Godreau, qui est chroniqueuse au journal Le Soleil. Salut Valérie!
Salut!
On va-tu te croiser à un moment donné? On va-tu te croiser à un moment donné au Capital de Québec?
Ah, certainement. Ben j'adore les capitales. On a toujours une activité d'ailleurs du soleil. Moi, j'y vais au moins 4-5 fois par été. Pour moi, c'est des belles activités. Ouais. Dans la...
Quand j'étais jeune, j'écoutais ça à la radio. En fait, c'est pas moi qui écoutais ça à la radio. Là. C'était mon oncle qui écoutait ça et il s'endormait sur la chaise berçante. j'ai pogné 2 minutes quand j'ai été voir une game de balle. Avec toute l'ambiance et tout ça, là, c'est exceptionnel. Mon premier match, c'était avec les Expos de Montréal, bien entendu. Mais quand j'ai découvert les capitales à Québec, je me dis, waouh, on est chanceux d'avoir ça chez nous.
Bien, toute je voyais les Renault qui s'en viennent au Stade Canan, le petit look Fenway Park, la localisation du stade, on est proche de tout, le prix des concessions. Tu sais, il y a vraiment une expérience, et moi, ce que je fais, j'invite beaucoup de mes amis de Montréal. Puis je leur dis, l'été, c'est trippant, puis on dirait que je leur fais connaître. C'est méconnu, c'est carrément méconnu, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir autant d'ambiance. Et j'aime beaucoup l'atmosphère old school. Je trouve que la mise en marché des capitales, tu sais, ils réussissent beaucoup aussi là, ce côté ball game en famille, un peu. T'as besoin d'être. Je pense que le stade y contribue pour beaucoup aussi. Là.
Nous autres, on ira nous autres, on va aller faire un tour vendredi. T'es invité si tu veux venir prendre une petite bière. Je sais qu'on va se croiser ce soir dans un autre événement, là, mais vendredi, t'es invité.
Nous allons ce soir jaser de l'opinion. Ça va être le fun.
Oui, ça va être le fun. Hey, dans les dossiers municipaux qu'on couvre, je sais pas. J'essaye ça là, depuis qu'ils m'ont envoyé mon petit rouleau mauve à la maison, là, les petits sacs avec mon petit bac gris. On essaye le plus possible de collecter les résidus alimentaires, mettre ça là-dedans, puis après ça, mettre ça dans le bac vert. Je l'ai fait parce que c'était vraiment pas compliqué à faire. Par la suite, ce qu'on avait appris dans les tout débuts, c'est qu'on n'était pas capable de revaloriser les sacs. Donc, on devait les envoyer à l'usine, à l'incinérateur. En fait. Je ne sais pas si, pour ce qui est des sacs, ça s'est réglé. Mais jusqu'à maintenant, ça semble fonctionner, sauf que ça coûte donc bien cher, Valérie Godreau, les sacs, la collecte des résidus alimentaires. 6,3 millions pour les sacs mauves en 2023.
Oui, ça a été un des enjeux, effectivement. C'est comme le prix à payer, ce journal qui a sorti ça. Moi, il y a un élément, puis c'était pas un dossier, puis je vais être franche, je suis toujours très franche. Le coût sera réduit à 4,6 en 2024 et l'année prochaine. Là. Donc, est-ce qu'il y avait tout l'élément de démarrage de ça? On savait que ça allait être une technologie compliquée. Moi, j'aime ça toujours mettre de la perspective parce que souvent, ça vaut la peine de vieillir. c'est pour ça, des fois, on est capable d'un avantage d'être là depuis longtemps. C'est qu'à l'époque, il y avait toute la réflexion vers le fameux bac brun. Puis, je sais pas si peut-être Pascal se souvient, Régis Labeaume nous parlait. Il n'y aura pas de psychose du sac brun. Alors là, il y avait du sac brun. Honnêtement, moi, je connaissais aucun voisin qui était en psychose après avoir dû avoir un sac bleu, un bac bleu pour le recyclage, puis une poubelle. Mais bon, il y avait tout ce choix-là. Donc oui, le choix de la technologie par prix qui voulait faciliter le comportement. Il y avait un prix. On dit que le prix va être revu à la baisse, donc comme une notion de gros là-dedans. Donc c'est un peu le pari qu'on a fait. Moi, ce que je trouve particulier dans ce temps-là, c'est qu'on ne peut jamais dire hein, qu'aurait été l'autre option. Est-ce que si on était allé de façon plus traditionnelle avec un bac régulier, probablement qu'il n'y aurait pas eu ces coûts encourus là, pour les fameux sacs mauves. En même temps, est-ce qu'on aurait eu le taux intéressant de participation à ce projet donc de compostage? Oui, c'est voilà, ça fait partie des choses. Mais tu sais, moi, je sais pas honnêtement, les sacs mauves, comment ça devait coûter, tu sais.
Mais en fait, moi, je m'attendais à ce que le sac mauve soit facilement récupérable, tu sais, qu'on puisse qu'il soit biodégradable plus que les sacs qu'on prenait nous autres à l'épicerie qui nous donnait gratis dans le temps, puis après ça, ils nous chargeaient 5 à 10 cents du sac, là. Parce que c'est weird ce qui est arrivé, là. Tu sais, d'un côté, les épiceries nous ont enlevé les sacs qu'ils nous donnaient, à qui on donnait une deuxième puis des fois une troisième vie. La deuxième, c'était, moi, ça me servait de sac à poubelle. La troisième, c'est pour les poupous des chiens, ben nécessairement, je prenais ces sacs-là. Là, on n'a plus de ces sacs-là. Fait qu'il faut utiliser d'autres sacs qu'on achète à l'épicerie maintenant pour cet usage-là. Puis là, la ville nous donne des sacs mauves qui ne sont pas récupérables non plus actuellement. Oui. Tu te dis, voyons donc, comment ça qu'on travaille à l'envers comme ça? Mais qui sait, la technologie nous amènera peut-être ces fameux sacs mauves biodégradables bientôt. On va se le souhaiter, du moins.
Ben, on espère, puis si jamais on veut pousser, j'aime toujours, des fois, hein, quand on prend des sujets comme ça, j'ai mon collègue Jean-François Clich qui est toujours bien sa coche sur la vérification. En fait, et au mois d'octobre, il avait fait un papier, justement, à partir d'une question du lecteur qui soulignait cette ironie-là, et dit, voyons, c'est là pour composter que le sac lui-même n'est même pas recyclé, envoyé à l'incinérateur. Alors, ça, c'est en octobre, fait que c'est pour ça que la situation là, sur le plan environnemental ou technologique a changé beaucoup depuis. Ça s'appelle « Non, les sacs mauves ne sont pas recyclés ». Alors, c'est vrai que c'est très, très ironique.
Puis, il y a plein de gens qui utilisent ces sacs-là pour le poupou des chiens maintenant.
Sans faire de compostage.
Hein, faites pas ça, mais je vous juge pas. Faites pas ça, mais je vous juge pas, OK? Hey, dans ta chronique d'aujourd'hui, tu nous parles du cardinal Gérald Cyprien Lacroix. On en a parlé hier avec Pascal et Tom. Moi, j'aurais aimé que ça se passe en bonne et due forme, là, c'est-à-dire des avocats avec un juge qui dit « vous êtes coupable ou vous êtes non coupable ». Malheureusement, ça ne sera pas ça. C'est le Vatican qui a mandaté un juge à la retraite qui a une solide expérience là, au niveau de la justice depuis des années et des années. Et on lui a dit « toi, tu dois faire enquête sur les gestes qu'on reproche à Gérald Cyprien Lacroix. Ça s'est avéré qu'il n'a pas été capable de rencontrer la victime dans ce dossier-là, qui n'a pas nécessairement confiance au Vatican. Et lui, il vous a présenté pendant plus d'une heure un dossier où il mentionne qu'il n'y a rien là-dedans qui pourrait permettre d'accuser Gérald Cyprien Lacroix de quoi que ce soit. T'en penses quoi?
Écoute, ça a été une expérience très particulière. Moi, en journalisme, de toute ma carrière, je parlais avec tes collègues sur place hier, on n'a pas vu ça souvent. Évidemment, c'est toujours particulier. Allô, je colle une conférence de presse pour vous présenter un rapport commandé par le pape. Quand même, on conviendra que dans une vie, c'est assez rare. Alors, il y avait l'exercice en soi, ce qu'on appelle donc un procès canonique, hein, une démarche judiciaire interne au Vatican. C'est assez nouveau quand même, parce que là, évidemment, l'Église catholique, on s'entend, revient de très, 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 très loin en termes de transparence reliée aux agressions sexuelles dans le passé. Je pense qu'il y a un exercice réel d'avoir l'air de pas juste comme se juger entre eux. Donc, oui, ils ont mandaté. La question première qui se pose, c'est ce juge à la retraite, André Denis, en quoi il est sur le payroll du Vatican, là. Tu sais, quelque part, puis il le reconnaît. Donc, entre autres, la plaignante et la perception, parfois, du public, c'est de dire, ouais, mais en quoi ça va pas, justement, étouffer ou en quoi ça va être complètement indépendant? Il nous a répondu hier, c'est intéressant. Lui a fait quand même plusieurs de ces causes-là qui sont de la recherche. En gros, il monte un dossier qui dirait au Vatican, ce gars-là, oui, la plainte est fondée. Dans tel pays, en telle année, il a fait tel attouchement. Il mène des enquêtes, dans le fond, au nom du Vatican, puis il lève le flag au pape. C'est ce qu'on avait à résumer grossièrement. Et hier, on a dit, ouais, mais sais, peut-être que vous êtes là pour justement dire « Ah, oh, on a cherché, on n'a rien trouvé. » Ben, il dit que lui a fait condamner quand même les Oblats de France dans une histoire d'agression sexuelle d'enfants au Nunavut. Alors, il dit, moi, je veux dire, ils n'ont pas aimé mes conclusions. Là. Je leur ai dit, ben, pas aimé. Ils veulent le savoir aussi. T'sais, fait, en tout cas, moi, en termes d'autonomie, d'indépendance, j'ai tout à fait cru ce juge à la retraite hier. Un exercice étonnant, respectueux des médias. Franchement, c'était assez spécial de voir okay. ça. Et surtout, quelqu'un qui est capable de dire, regarde, je vous présente le cas aujourd'hui, puis c'est vraiment pas complet. J'en suis désolé, mais entre dire j'arrive à rien puis je vous cache tout, ou je me pointe devant un journaliste, je me fais bombarder de questions pendant une heure et j'admets les limites de mon mandat, on peut trouver que c'est un exercice d'humilité, de transparence qui est très franche. Fait que c'est très spécial.
Valérie Godreau, il y a toujours un recours collectif actuellement contre le diocèse de Québec pour des abus qui ont été commis dans les dernières décennies. Il y a 147 victimes. Puis dans les accusés, il y a le nom de Cyprien Lacroix. On fait quoi avec ça?
Ben oui. Ben, c'est exactement pour ça que l'autre... Tantôt, quand tu dis en intro, t'aurais aimé avec un juge-avocat, c'est que la plaignante, elle ne veut pas. Elle ne poursuit pas au criminel. Elle ne poursuit pas. Elle sait... intégrée, qui est anonyme d'ailleurs, c'est une femme qui dit avoir eu des attouchements sexuels de Monseigneur Lacroix. En 87-88, elle avait 17 ans, elle dit que c'était lors d'un séminaire d'études sur la Bible. Et pourquoi elle est dans le recours collectif? C'est qu'elle s'est inscrite dans le recours, elle est une ligne sur 147, en gros, qui vise Cyprien Lacroix. Et ça, quand le pape et le Vatican ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe avec cette mention-là dans le recours, et c'est là qu'ils ont dit, ils ont mandaté le juge à la retraite pour aller plus loin. Donc, en réalité, peu importe, hier, le Vatican dit on n'ira pas plus loin dans ce dossier-là parce que le juge arrive à aucune conclusion le reliant, mais le recours collectif, il continue, puis c'est exact. Pour ça que ce matin, ma chronique s'appelle « Le sort du cardinal dans les limbes », et là, on rentre vers toute la question de perception, le mouvement MeToo, les gens cancellés de l'espace public, alors que les procédures sont en cours, la présomption d'innocence, c'est extrêmement délicat, extrêmement complexe. J'ai osé m'y avancer ce matin avec en plus une couche de religion pour aider. Alors, on part du débat, mais effectivement, cette question se pose. Donc, le recours collectif, il continue. Et même si le Vatican dit que dans cette enquête-là, dont on a eu des nouvelles hier, il n'y a rien à se reprocher. Ça n'enlève pas son nom, donc il n'y a rien qui change. Puis c'est pour ça qu'à mes yeux, son statut est dans les limbes, parce que honnêtement, il ne peut pas reprendre la vie publique, qu'il soit blanchi ou non. C'est le recours collectif, et ça, on peut en avoir pour plusieurs années.
Bien, en plus, il y a quand même toute l'opinion publique, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle teinte l'affaire des années d'abus. Il y a quelque chose qui est... Je comprends là, qu'il n'y a pas d'accusation canonique. Peut-être qu'il n'y en aura pas non plus au niveau de la justice que l'on connaît, mais il y a quelque chose qui a été joué déjà. Là.
Absolument. Puis c'est l'accumulation entre les 147 victimes, là. C'est des gens qui attendent de longue date. C'est le diocèse de Québec. On a vu beaucoup d'autres diocèses admettre. D'ailleurs, l'Église catholique, le diocèse de Québec, il veut régler. Là. Il admet qu'il y a eu... c'est dur de venir juger tous les cas distincts, mais il y a eu un système qui a favorisé les abus. Il y a une génération, puis c'est un peu ce que je disais. Au total, moi, matin, à travers toutes ces histoires-là, ma chronique se conclut en disant la pensée, c'est surtout pour ces gens-là qui, depuis tant d'années, attendent réparation. Et oui, effectivement... l'Église veut régler, on ne sait pas de combien, mais sérieusement, ça ira jamais en cours. Je pense que ce sera un règlement en cours de toute manière dans ce recours-là. Mais un cas comme Cyprien Lacroix, même s'il a peut-être ce communiqué là, du Vatican qui dit c'est beau, on n'ira pas plus loin, son nom, il reste là-dedans. Et s'il y a un recours collectif, ben, tout le monde règle ensemble et jamais on aura la vérité, peut-être.
Puis, tu sais,
ça, c'est le choix de la victime.
Oui, exactement. Puis, tu sais, on ne peut pas obliger une victime à témoigner. Là.
Exact.
Mais Cyprien Lacroix n'est jamais sorti en disant moi, je tiens à ce que je me ramasse en cours devant un juge, puis je veux expliquer comment ça s'est passé de mon côté, puis je veux que la victime alléguée puisse s'expliquer aussi. Puis, tu sais, il n'a jamais poussé pour que ce soit ça, là. Il a dit, moi, j'ai rien fait.
Mais
moi,
c'est
j'ai
sensible.
Fait.
Je sais pas, moi, si j'ai. Ben, moi, je m'excuse, Pascal, d'aller là.
Mais toi, si oui. Un jour, je suis accusé de quelque chose, puis ça sort dans les médias, la première affaire que je veux, c'est qu'un juge s'intéresse à ma cause, puis que je sois dans le banc des accusés, puis que les gens qui ont des choses à me reprocher viennent, puis ils vont témoigner, puis moi aussi, je vais témoigner. Puis après ça, justice sera rendue, puis toute la population saura que j'ai pas fait ça ou que je l'ai fait.
Puis t'as pas peur qu'admettons le jugement soit. Admettons que t'as rien fait, là, OK? T'as pas peur que le jugement soit contre toi au final?
Ben, c'est ça, c'est le risque. C'est le risque. Mais je veux dire, quand t'as soif de justice, quand toi, tu te considères comme innocent. Mais
clairement, j'entends ton sentiment de justice qui est très fort.
T'es le premier à monter aux barricades. Moi, ce que Cyprien Lacroix fait là, à se cacher, là, et à pas vouloir parler, je comprends pourquoi il le fait. Mais moi, j'agirais. Je serais con. Mm-hmm. Je ferais totalement le contraire.
Je vais un petit peu défendre Cyprien Lacroix là-dessus, Yannick, si tu permets, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas eu d'accusation dans ce type d'instance-là.
Exact.
Donc là, lui, il a collaboré avec le juge, il a tout dit. Ils sont allés jusqu'à son enfance, en tout cas, ce qu'a dit le juge Denis hier. Là, après. Mais l'autre question, c'est qu'il y a aussi une affaire. Bon, premièrement, il avait fait une vidéo. Bon, lui, il dit qu'il est innocent. Mais ce qu'il dit, c'est je vais participer à tout ce qui sera fait, que ce soit ici ou au Vatican, parce que les fameux procès canoniques, là, c'est des espèces de tribunaux religieux, appelons ça comme ça, à défaut de mieux, mais c'est une espèce de justice pour les hommes d'Église. Et lui, ce qu'il dit, une des choses qu'il a faites, que plusieurs ont pas toujours faites dans le passé, de toutes les dizaines, centaines de prêtres qui ont été accusés de pédophilie ou autres à gestes à caractère sexuel dans l'histoire, c'était souvent de faire comme si de rien n'était, puis de continuer à servir la messe, puis de rencontrer les fidèles, puis de nier tout ça. Lui, dès janvier, il s'est retiré volontairement. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'il disait, moi, là, je veux même pas intervenir dans le processus, que la victime parle, qu'elle dise ces choses, je vais répondre aux questions. Fait qu'il y a quand même une... En tout cas, moi, c'est ça qu'il a annoncé hier, qu'il allait prolonger, dans le fond, son retrait de la vie publique, parce qu'il faut quand même... Peu importe qu'on soit d'accord, il faut juste admettre qu'il a choisi par lui-même de partir. Puis ça, c'était quand même c'est assez fair play, je pense, d'accepter de s'exposer à ben, c'est parce qu'il est coupable. Non, c'est de dire moi je commencerai pas. Puis c'est un peu l'essence, encore une fois, du texte de ce matin. S'imagine le malaise. C'est même si quelqu'un disait je suis blanchi, je crois à mon innocence, je continue mes activités, on ne peut plus, là. Cyprien Lacroix, c'est plus que quelqu'un qui est à l'intérieur de son église, là. Il était partout, il est dans la vie communautaire, philanthropique, patrimoniale, touristique. Il est avec le maire. Combien de fois on l'a vu auprès de Régis Labombe dans plein d'événements dans le passé. C'est un homme public, c'est un homme politique à certains égards, Cyprien Lacroix. Donc, il a décidé de se retirer par lui-même. Ça, je voulais juste le souligner.
Salut Yann, Blonde est avocate et elle dit vaut mieux la pire des ententes hors cours que le meilleur des jugements. Ouais. Car en cours, tout peut arriver.
C'est ça, moi j'aurais peur de ça. Mais je comprends par contre sur le sentiment d'injustice qui est très fort en toi, là, c'est vraiment quelque chose qui m'habite aussi. Je sais pas si c'est commun dans les médias.
Non, quand t'es innocent, tu veux te battre pour démontrer ton innocence, mais je comprends qu'il y a des stratégies qui existent et tout ça.
C'est juste qu'à un moment donné, la rationalité, peut-être reprend un peu.
Je veux pas faire de procès indu, je pensais pas parler de Johnny Depp ce matin.
De Johnny Depp!
Je ne sais pas pourquoi on peut passer de Cyprien Lacroix à Johnny Depp et Amber Heard ce midi, mais honnêtement, c'était un peu ça l'objectif. T'sais, rappelle-toi, Amber Heard avait écrit une lettre où elle ne nommait pas donc cet homme qui lui avait fait subir des violences. Et là, lui dit, see you in court, ah ouais, on va déballer notre linge, amène-toi. Mais on le sait à quel point ça a quand même laissé des dommages, parce qu'accepter